Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. La version hivernale d'Ocar de Tours lance les 13 et 14 février sa deuxième édition qui s'inscrit dans les joyeux 40 ans de Radio Béton, la radio Ferrarock de Tours qui porte le festival. Retrouvons donc en fin d'émission une petite flopée de bétonneurs et bétonneuses pour parler de ces festivités. D'ici là, nous aurons présenté les deux albums coup de cœur des radios de la Ferrarock. Il s'agit de Fragments par les franco-suisses de Infallo, présenté par Morgan de Radio Primitive en deuxième partie d'émission, ainsi que The Lighthouse par Tessa Rose Jackson, son premier album sous son propre nom, qui est une captivante plongée dans la folk céleste de l'artiste anglo-néerlandaise. Interview par Lola et Julie pour la voix off de la radio Canal B.
Salut, c'est Lola de Canal B à Rennes. Cette semaine, dans l'émission Dig Dig Diggers, la Ferrarock vous fait découvrir The Lighthouse. Le phare, c'est le dernier album de l'artiste anglo-néerlandaise Tessa Rose Jackson. C'est sorti le 23 janvier dernier sous le label Tiny Tiger Records. Et avant de la retrouver en studio, je vous propose d'écouter le titre The Lighthouse qui donne son nom à l'album.
High tide on a lonesome wind, the trail of old spite invited in. The saltiest skin bent to drink the rain, and the memories fade. By name, I've been away, but there rings a sound from beyond my reach, a kerosene glow, a light, a heat, the dusty old starts to change.
D'entendre The Lighthouse, la chanson du même nom que le nouvel album de Tessa Rose Jackson qui est avec nous pour nous parler de son projet. Tessa Rose Jackson, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Dig Dig Diggers. Avant de parler de ce titre The Lighthouse que nous venons d'écouter, on va parler un peu de vous. Vous avez laissé votre ancien nom d'artiste Someone sous lequel vous étiez jusqu'à présent connu pour apparaître désormais sous votre vrai nom, Tessa Rose Jackson. Quelle est la signification derrière ce changement d'identité? Est-ce que c'est une renaissance, un nouveau départ?
Alors, bonjour, merci de me recevoir.
Absolument,
oui. Quand j'ai commencé à réaliser de la musique, j'avais composé un album sous mon propre nom en 2012, quand j'avais 20 ans. J'étais très jeune et c'était vraiment un album joyeux et pop-folk. C'était ce que j'aimais faire à l'époque. Ça avait plutôt bien marché quand il est sorti dans mon pays, aux Pays-Bas. Mais comme ça arrive à chaque fois que quelque chose marche, c'est que les gens, ils en veulent plus. Et moi, je me sentais un peu catégorisée, surtout en tant que femme, qui a un nom très féminin, Tessa Rose Jackson, et qui fait de la musique pop. Je me sentais coincée dans ce rôle. Et j'avais envie de faire d'autres choses, de me développer, d'expérimenter d'autres genres musicaux, mais je sentais que je ne pouvais pas le faire sous mon propre nom. Et donc le nom Someone, c'était un peu une rébellion. J'avais la possibilité d'être totalement non-genré, non-catégorisé, et donc que les gens n'aient aucune attente par rapport à ma musique. Sous ce nom, je pouvais expérimenter tout ce que je voulais, je me sentais libre. Mais maintenant, j'ai 33 ans, donc j'ai utilisé ce nom pendant longtemps. Et je sens que maintenant, c'est le bon moment pour moi de reprendre mon vrai nom. Someone a rempli son rôle.
Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est un peu un projet un peu plus intime maintenant ?
Oui, complètement. C'est logique que cet album soit sous mon nom maintenant parce que c'est un album extrêmement intime. J'ai même enregistré l'album de la même façon que je l'ai composé. Je voulais que ça ait l'air extrêmement naturel. Je voulais pas trop changer ma voix avec des reverbs ou y ajouter des effets. Je voulais presque que ça ait l'air d'une performance en direct.
Vous dites que c'est un album qui parle de la mort, mais qui n'est pour autant pas sombre. Mais alors, on se le demande, Tessa Rose Jackson, comment on parle de la mort sans être sombre ?
Je le fais littéralement tout le temps. On ne peut pas parler de la mort sans parler de la vie. J'ai été élevée par deux mamans et l'une d'entre elles est morte quand j'étais très jeune. Donc la mort a toujours eu une place dans ma vie avec qui j'ai dû apprendre à cohabiter, ça n'a pas été facile. Mais je pense que j'ai toujours été consciente que tout avait une fin et ça m'a fait réaliser à quel point je trouve que la vie est incroyable. Et j'utilise parfois le concept de la mort comme une motivation et je me dis qu'il faut que je fasse ces choses dont j'ai si peur mais que j'ai tellement envie de faire parce que je vais mourir un jour, donc fais-le. Le sentiment que l'on ressent quand nous perdons certaines personnes, c'est tellement triste, terrifiant et interminable. Mais le chagrin aussi est un mécanisme intéressant, particulièrement avec ma mère qui est décédée. J'ai toujours une relation avec elle. Elle a toujours eu une place dans ma vie. Il y a beaucoup de beauté et d'amour dans cette relation, donc voilà, je pense qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre.
The Lighthouse, donc le phare, c'est souvent un terme qui représente un guide, comme un guide dans les ténèbres vers la lumière. Mais ici, dans cet album et avec ce titre, que se cache-t-il derrière ce phare ? Une personne, une chose, une idée ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est très profond. Quand j'ai commencé à écrire pour cet album, je me suis laissé deux mois, janvier et février, et je me suis dit que je vais écrire. Et je me suis dit que je vais écrire sur ces deux mois, parce que c'est bien d'écrire durant une durée déterminée à l'avance. Je n'avais jamais fait ça auparavant, mais j'avais l'impression qu'il le fallait. Mais ça n'a pas été facile. Au début, c'était compliqué et je n'étais pas inspirée du tout. Alors, je suis allée faire une longue promenade pour essayer de faire émerger quelque chose et j'avais peur de n'avoir finalement rien à raconter. Peut-être que je n'avais rien à ajouter à ce monde, mais d'un coup, j'ai eu cette sorte d'image en tête d'un marin perdu en mer qui naviguait à travers la brume et d'un seul coup, il voit une lumière à travers la brume et se rend compte que c'est un phare. Et il arrive alors sur une île et dans ma tête, je me suis raconté qu'il arrivait accidentellement sur l'île des morts. Et il rencontre tous ces villageois qui ont vécu dans le village et qui ont des paroles vraiment sages et il essaye de trouver une solution pour le renvoyer sur les terres des vivants. Dès que je suis rentrée chez moi avec cette histoire en tête, j'ai commencé à jouer avec ma guitare et cette chanson, The Lighthouse, le phare est arrivé. Et dès que j'ai eu cette chanson, je savais où le reste de l'album allait se diriger. Donc c'est vraiment profond, je pense que ce phare veut dire beaucoup de choses, mais d'une certaine façon, il raconte aussi l'album, ce qui est fou.
Vous avez composé votre album en France, votre maison était même située près d'un cimetière, ça peut paraître un peu étrange comme endroit pour composer. Pourquoi avoir décidé de s'isoler dans la campagne française pour composer cet album ?
En fait, j'ai passé beaucoup de temps en France. Ma famille avait une charmante maison là-bas, dans la campagne, perdue au milieu de nulle part, à Bâche, dans l'Aude, où il n'y a peut-être que 50 habitants. Et je n'avais pas réalisé que c'était à côté d'un cimetière, pour être honnête. Une fois que j'avais l'idée du phare, je voulais écrire un album très vrai, honnête et pur. Et je pensais que c'était une bonne idée de ne pas composer dans mon studio, là où j'ai toutes mes habitudes et où c'était vraiment facile d'y composer des choses plutôt cool. Et justement, là, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais laisser la production et mon groupe de musique pour plus tard. Je voulais vraiment me concentrer sur l'écriture de mes chansons. Alors, j'ai pensé qu'il serait bon d'aller à un endroit plutôt calme et un endroit nouveau où je n'avais jamais écrit auparavant. Et c'est vraiment une coïncidence que l'idée de l'île des morts m'était venue. Et quand nous sommes arrivés à la maison, il n'y avait plus de chauffage, alors nous avons dû faire du feu de bois et il faisait super froid et très moche dehors. Ce qui était drôle encore une coïncidence. Et après, j'ai réalisé qu'on était près d'un cimetière et waouh, je pense que Ça m'a vraiment permis d'être encore plus
inspirée.
Vous avez déjà écrit des chansons pour plusieurs films et même pour un jeu vidéo donc très célèbre qui s'appelle Life is Strange. Même vos clips vidéo sont très cinématographiques. Est-ce que cela fait partie de votre processus d'écriture, d'imaginer que vos chansons sont la bande-son de votre propre film ?
Absolument. Je crois que si je n'avais pas été dans la musique, j'aurais fait du cinéma. Pour moi, ils vivent main dans la main. Beaucoup de musique que j'aime, je les ai d'abord entendues dans des films. Et pour moi, c'est assez naturel d'illustrer mes chansons avec des images. C'est assez classique, mais quand je compose, j'ai toujours des images dans ma tête. Et ça m'aide à savoir où la chanson doit aller et à quoi elle doit ressembler. Et c'est ce qui m'amuse dans la composition. J'aime bien appeler ça du world building, construction d'un univers, comme si l'on créait plein de petites poches pleines d'imaginaire. Ce qui est le même processus qu'un réalisateur de film. J'ai beaucoup d'amis qui sont réalisateurs et on travaille pratiquement pareil, on n'utilise juste pas les mêmes outils.
Écoutez le titre The Bricks That Make the Building du dernier album de Tessa Rose Jackson, The Lighthouse. Dans cette chanson, vous parlez de la famille et du lien de sang. Donc si l'on imagine que le building, c'est la famille, qui sont ces briques ?
Eh bien, je pense que nous en sommes toutes et tous une. C'est intéressant parce que j'ai été élevée par deux mamans et du coup, techniquement, l'une de mes mères n'était pas du même sang que moi, mais je la considère comme ma famille, donc The Bricks That Make the Building parle de personnes qui ont vécu avant nous et qui nous ont créés, donc ça parle de nos ancêtres. De votre grand-mère qui a quitté son pays pour atterrir dans celui où vous vivez actuellement. Elle a donc pris une décision qui vous impacte, dans votre façon de vivre et d'être. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Regardez le passé et être très reconnaissant pour toutes ces vies avant vous, mais aussi de réaliser que vous serez l'une d'entre elles. Nous allons être l'une de ces briques un jour et l'immeuble, le building, va se construire au fur et à mesure.
Et justement, qui sont les personnes qui se cachent derrière les briques qui ont fabriqué cet album ?
Donc nous avons mon merveilleux groupe, Dom Poyser, Kevin Morcel, Darius Timer et Davis Meyer. Et nous avons enregistré l'album à Tarnos, à côté de Biarritz. C'est moi qui le produis, c'est tout, mais nous avons aussi invité quelques musiciens du coin qui étaient amis avec l'ingénieur du studio et qui passaient de temps en temps. Et ce qui a aussi participé à une grande partie de l'album, c'est l'arrangement des cordes et des guitares. Ça a été fait par Sam Bro, avec qui nous sommes allés au lycée ensemble. Il y avait un travail fou, il me surprend et m'émeut toujours quand j'entends ses arrangements.
Et enfin, Tessa Rose Jackson, parlons de vos propres briques, celles qui vous ont façonné. Vous dites souvent que vous êtes une grande fan de Tim Burton et de l'univers qu'il a créé. Qu'est-ce qui vous inspire dans cet univers ?
Dans l'univers de Tim Burton, j'adore la combinaison du macabre, de l'horreur, mais il y a aussi quelque chose de joyeux et espiègle. Je pense que je suis une grande fan de tout ce qui est vraiment contrasté. Quand on n'explore qu'un seul prisme, je m'ennuie. Et Tim Burton a une imagination incroyable, c'est toujours visuellement jouissif. Il prend toujours une tournure humoristique, une lueur dans tout ce qu'il fait, et ça résonne en moi. Je ne peux pas supporter des choses qui sont trop lourdes et pesantes, parce qu'en quelque sorte, ça ne me donne aucun espace pour ressentir. J'ai toujours besoin de lumière pour laisser place à mes émotions.
Et si vous deviez choisir parmi tous les films de Tim Burton, lequel d'entre eux pourrait représenter le mieux votre album ?
Ah, c'est une bonne question. Il y a une image que j'ai en tête, c'est celle des noces funèbres. L'idée de contraste entre tous ces gens morts. Il y a d'une personne vivante, c'est toutes les questions que ça soulève, mais aussi l'humour dans cette histoire. Il y a quelque chose avec la colorimétrie du film qui résonne avec ce que j'imagine pour ma chanson The Lighthouse, donc oui, probablement Les Noces Funèbres.
On arrive à la fin de cette interview, mais avant de vous faire écouter un dernier morceau de cet album, on va en parler. Build to Collide, c'est un morceau un peu à part de l'album, il est plus électrique, il parle de mourir mais aussi d'échouer, et vous tentez de rassurer « We are built to collide sometimes », nous sommes faits pour nous heurter parfois. Qui est-ce que vous essayez de rassurer à travers cette chanson ? Vous, ceux qui vous écoutent ?
Eh bien, c'est la magie de la musique. Originellement, c'est la dernière chanson que j'ai composée pour l'album. Et j'arrivais à la fin de l'écriture de l'album, qui était honnêtement extrêmement difficile. Je m'étais fixé énormément de standards qui m'ont juste désorienté et énervé. Et quand j'écrivais l'album, vraiment, j'étais dedans, je me suis presque trop plongée dedans. Et quand je m'observais faire, je n'arrêtais pas de me demander pourquoi tu fais ça, pourquoi tu rends ça si difficile pour toi. Pourquoi tu continues à faire les mêmes erreurs encore et encore ? J'ai 33 ans maintenant, je devrais avoir appris de mes erreurs. Mais il y avait aussi cette idée marrante que, oh, on n'apprend jamais de nos erreurs, c'est normal, on est humain. Quand je chante cette chanson, je me moque toujours un peu de moi. L'idée que je n'ose pas faire certaines choses parce que j'ai peur que ça se termine mal, mais du coup, je finis par ne rien faire du tout. C'est même l'une de mes phrases préférées de l'album entier, mort de peur à l'idée de mourir, donc tu fais semblant à la place. Il y a quelque chose de très rassurant, je trouve, quand je la chante, c'est que je mets au défi de vivre encore plus et de vivre spontanément parce que je suis perfectionniste et j'ai été élevée. Et j'ai toujours évolué dans l'idée que tout devait être parfait tout le temps. Et j'ai réalisé vers mes 30 ans, ou même cette année réellement, que personne n'est parfait et c'est normal. Et c'est vraiment cool de voir d'autres personnes être humaines et de ne pas être parfaites. Nous avons tous besoin de voir ça plus souvent. Et quand je joue la chanson en direct, j'ai vraiment l'impression que cela trouve un écho auprès des personnes présentes dans la salle. Et j'ai des discussions super intéressantes avec le public après la chanson. Et je suis super reconnaissante d'avoir un prétexte pour aborder ce genre de sujet avec les gens. Ouais, si cette chanson peut servir de prétexte, alors je suis totalement partante.
Et on termine cette interview avec vous, Tessa Rose Jackson. Merci d'avoir été avec nous dans Dig Dig Diggers. Je le rappelle, votre dernier album s'appelle The Lighthouse. Il est sorti le 23 janvier 2026 sous le label Tiny Tiger Records. On se quitte sur un tout dernier titre, ça s'appelle Build to Collide. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. What a thing to try, what a thing.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Dig Dig Diggers des radios de la Ferrarock. Dig Dig Diggers. Après l'échange entre Lola de Canal B et l'artiste Tessa Rose Jackson pour la sortie de son disque The Lighthouse, c'est Morgan de Radio Primitive qui prend la suite de ce Diggers pour présenter Fragment par In Fallow, un album qui tisse un lien audacieux entre folk et matrock.
Quelques instants avec Vincent et Pierrick du groupe In Fallow. Ils viennent de sortir un premier album en décembre dernier en autoproduction. Un objet sonore qui ravira les amateuristes de guitare, mais aussi des toutous et des grands espaces.
In Fallow, c'est un groupe qui mélange rock et folk avec pas mal d'influences un petit peu plus niche. Et puis pour les gens qui sont un peu novices, en général on dit que c'est du Radiohead en un petit peu plus optimiste. Ça fait 5 ans qu'on existe maintenant et bah on vient de sortir notre premier album.
Alors, Fragment ou Fragment, comment tu le dis ?
Bah nous on le dit à la française Fragment, mais on a exprès choisi le nom de cet album justement pour que ça puisse faire deux langues à la fois. Donc on s'est dit que si jamais il y a des anglophones qui tombent là-dessus, ils seront pas trop perdus. Et à la base, c'est moi, donc Pierrick, qui ai fait un petit EP dans ma chambre que j'ai appelé In Fallow. Ça veut dire en jachère. Et l'idée de base, c'était de laisser un peu tout tomber après une espèce de burn-out musical, de pas toucher ma guitare pendant quelques semaines, et puis le jour où j'aurais vraiment envie de la reprendre, de coucher sur le papier quelques compositions comme ça, très spontanées, mais qui seraient, on va dire, un peu plus fidèles à ce que j'avais envie sur le moment. Et puis j'ai fait un petit EP, c'était il y a 5-6 ans, et puis après j'étais content des compos, et du coup j'ai demandé à des copains de me rejoindre pour faire le groupe. De ça est né plus de compos, plus d'envie aussi de ramener du chant. Avant, c'était instrumental. Et puis, il y a 3 ans, on a commencé une résidence au Brise-Glace. Et là, on a enregistré une dizaine de compositions. Et ça a mis du temps après à les mixer, etc. Et on est très fiers du résultat qui sort maintenant. Peut-être Vincent, il peut en parler un peu plus sur les détails de la genèse de cet album.
Donc on a fait cette résidence il y a 3 ans et on a pu enregistrer, on a commencé par enregistrer les batteries dans le club, le petit club du Brise-Glace, qui est équipé aussi pour faire des enregistrements. Donc on a passé 3 jours à enregistrer là-bas et ensuite en fait tout l'album a été autoproduit par nous quoi. Enfin chacun un peu enregistré ses instruments aussi de son côté, puis on a fait la post-production ensemble, et aussi le mix a été fait par Lucien, le bassiste, Lucien Leclerc. Et voilà, ouais, ça a pris un petit moment, mais je pense que c'était une bonne chose aussi de prendre son temps, et ça a permis de bien faire maturer le projet, et maintenant on est super content de le sortir.
Et nous, on est super content de le découvrir, ce premier album. Et je me suis fait une réflexion, et vous allez me dire si je suis complètement dans le faux, mais je pense que par rapport à la genèse dont tu nous parlais tout à l'heure, Pierrick, ça aurait peut-être du sens, vu qu'on te retrouve également à la guitare. J'avais la sensation que l'aspect mélodique, il était surtout porté par la guitare, par les guitares, et qu'il y avait une articulation un petit peu d'instrumentation autour de ça. Est-ce que je me trompe ?
Ah non, complètement. La genèse du groupe parle d'elle-même. En fait, à la base, le projet était instrumental. En écoutant des projets de math rock comme Totoro, qu'on salue bien, qu'on adore, qui viennent de Bretagne, ou d'autres groupes anglophones. Mais il y a toujours eu sous-jacent l'envie de mettre du chant. Et donc, quand on l'a incorporé pour cet album, c'était toujours dans cette idée un peu math rock, ou même une tradition un peu anglaise, que la voix soit au même niveau que les guitares. Donc c'est pas un instrumental qui soutient une voix, c'est plus la voix qui s'insère dans l'instrumentation.
Du coup, on retrouve ça, je suppose, à la composition. T'es seul derrière les manettes à la composition, et puis après, on répète là en format groupe, ça reprend autour de toi l'aspect mélodique. Comment ça marche ?
J'avoue qu'il y a pas mal de compositions, peut-être deux tiers, qui naissent autour de la guitare, moi dans ma chambre, dans mon salon, qui gratouille et qui fait des mélodies à la voix. Puis après, je les apporte, des fois je les maquette un peu à la maison avant, et puis on fait la suite en groupe. Mais on a fait aussi des jolis petits duos. Par exemple, avec Vincent, sur le single Sparking Light, on avait jammé à deux, et puis après on avait construit la chanson autour. Et puis d'autres chansons, comme Fragment, on a aussi fait un petit duo avec Léo, l'autre guitariste-chanteur, donc où on s'est mis à deux quelques jours et on a cherché des idées. Et donc c'est un peu des allées et venues entre différentes méthodes. On va dire deux tiers de moi tranquille à la maison, et puis un tiers de vraiment création à deux avec quelqu'un d'autre du groupe.
Voici le morceau In Fallow, tiré de Fragments, le premier album du groupe qui vient tout juste de sortir.
Je reviens sur l'aspect vocal si tu le veux bien, parce que moi j'ai trouvé les harmonies vocales hyper riches. Justement, et c'est aussi ça qui a capté mon attention dès le premier morceau, hein, des In Fallow, que vous avez mis en avant aussi comme morceau single pour présenter cet album. Ces harmonies vocales-là, si elles n'étaient pas pensées au départ, comment vous les avez construites ?
Ah, c'était un processus assez... un peu laborieux. Vincent peut en parler, parce qu'au début, on était deux, mais maintenant, Vincent chante aussi, donc on est vraiment un trio vocal. Et ça a pris du temps, c'est, j'ai envie de dire, vraiment grâce à Léo en bonne partie, donc l'autre guitariste qui a une jolie tradition folk et avec qui on partageait ça depuis longtemps, et du coup qui a apporté des choses plus subtiles. En général, moi je suis un petit peu brut de décoffrage dans mes mélodies, et Léo est venu un petit peu embellir ça. Et puis peut-être Vincent, tu peux en parler un peu si tu veux de l'ajout de ta voix, toi, sur les dernières compositions, parce que c'est un vrai petit plus, mais c'est aussi un petit défi.
Ma voix, on l'entend pas dans l'album, on l'a rajouté pour le live. Mais c'est vrai que aucun de nous trois n'est vraiment chanteur d'essence, quoi. On est tous plutôt instrumentistes. Mais oui, c'est un challenge en fait, et c'est encore work in progress, j'ai envie de dire. Surtout pour le live. Mais je trouve que l'ajout à la direction artistique du groupe, elle est super. J'aime beaucoup le fait qu'on ait rajouté justement des voix à ce projet qui de base était instrumental. Et je pense que ça a ouvert un tout autre champ, field, quoi, de création pour nous, de plutôt écrire des chansons que des morceaux purement instrumentaux, quoi.
Par rapport à tout l'aspect... visuel qu'il y a autour de l'album, c'est Dogo Style. Dogo Style, par là, je veux dire tête de hinche, petits canidés qui ne sont pas si petits d'ailleurs, j'ai l'impression. Vous nous expliquez un peu, ne serait-ce que l'artwork de cet album, Fragments, et puis c'est décliné quand même aussi. On retrouve cette figure du toutou, du fidèle compagnon, notamment dans les clips.
Ah ouais, à fond, en fait, alors c'est rigolo, ça a fait un peu effet boule de neige. Au début, c'était juste pour la pochette, et puis après, ça c'est devenu une espèce d'icône pour faire des stickers, et puis du coup, après, on s'est amusé à l'ajouter dans le clip, ce chien. Donc, la stratégie marketing est assez basique, mais finalement, on rigole bien avec, on est bien content. Et en gros, ce chien s'appelle River, et puis quand on cherchait pour faire une pochette... finalement, il s'est avéré qu'à un moment donné, on a pensé à pourquoi pas mettre la tête de ce chien qui est rigolote. J'avais cette photo qu'on avait prise au téléphone qui traînait dans mes affaires. Et puis, ça marchait bien parce que c'était à la fois, ça correspondait bien à la musique. Ce chien, il est joli, il est tout rigolo, il est plutôt optimiste. Mais en même temps, il a de la force, c'est un gros golden retriever. Quand on le sort, il nous tire le bras, il a tout le temps de l'énergie à revendre. Donc ça synthétisait bien la musique d'un côté. Et de l'autre, quand Vincent a parlé qu'on était au brise-glace, qu'on enregistrait les batteries de l'album et qu'on passait plus de temps ensemble, on logeait chez ma mère. Et en fait, ce chien n'est rien d'autre que le chien de ma mère. Et du coup, le soir, on s'amusait à jouer un peu avec lui. Ou en tout cas, c'était une espèce de symbole de ces moments partagés ensemble. Pas juste dans le local de répète, mais un peu des moments de vie du groupe.
C'est vrai qu'à l'écoute de cet album, c'est plutôt avec ce sentiment qu'on ressort. C'était aussi une envie que vous aviez dès le début, ou c'est ce qui est sorti in fine après production ?
J'avoue que là, c'était une envie à la base, surtout dans le premier EP. Et puis comme dans l'album, il y a quelques réminiscences, il y a quelques compositions qui sont issues du premier EP qu'on a remanié, il y a peut-être ça qui s'est naturellement transmis. Après, je pense qu'entre nous, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entend bien après 5 ans de groupe et les aléas de la vie, c'est qu'on est peut-être plutôt des personnes optimistes, ou en tout cas qui avons envie de l'être. Je sais pas si Vincent, comment tu le ressens, parce que moi je suis un peu trop la tête dans le guidon.
Ah oui, c'est vrai, enfin, je pense qu'on est effectivement à la recherche de voir le bon côté des choses, quoi. C'est vrai que ces derniers temps c'est un petit peu moins évident, mais justement en fait ça nous fait toujours du bien de faire de la musique ensemble, et quand on se retrouve, on passe toujours des super moments.
Trop bien, et ça se retrouve, hein, je trouve, rien que dans le clip de In Fallow, où vous êtes tranquillement installé sur votre canapé qui roule, on prend l'air, on voit les vaches, on est heureux, quoi.
Alors, j'avoue que ça, c'est aussi un point commun, c'est qu'on s'est rencontrés autour de la région genevoise, lausannoise et haute-savoyarde. Et du coup, il y a vachement la nature et le côté un peu bucolique qui fait du bien, qui est présent. Et puis, c'est aussi un truc qui est une partie de nous, c'est-à-dire que avec Vincent ou Léo, moins avec Lulu, mais avec Vincent et Léo, on a souvent fait de la rando ou du ski ensemble. Et c'est une partie de nous, je pense, même si on n'en est pas tout le temps conscient, je pense que c'est, on a quand même de la chance de vivre dans une région cool pour ça.
Après l'expérience d'enregistrement, donc, à la sortie de ce fragment, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois comme belles aventures ?
Alors du coup, on est ravis, on vient de terminer notre vernissage au Chat Noir. C'était pour nous la fin d'un petit marathon de notre tournée de promo de l'album. Mais il y a notre clip du single Fragment qui sort tout juste et dont on est très fiers parce qu'il est en featuring avec notre amie Lucille Mille. Et on a quelques concerts à venir dans le printemps, plutôt dans la région Rhône-Alpes et Suisse. Et on espère, normalement, ça devrait se confirmer, quelques petites dates cet été.
On écoute quoi ?
Je peux te présenter Fragment avec plaisir. C'est le titre éponyme de notre premier album. Et puis c'est un titre qui a été écrit en duo Léo et moi et sur lequel s'est rajoutée notre copine Lucille Mill qui le chante souvent avec nous en concert d'ailleurs quand elle est dans le coin. Et puis ça parle de fragments de vie, de moments et de comment on se voit dans le futur et comment on se voit dans le passé et quel dialogue on peut installer entre ces différentes facettes de nous-mêmes.
Behind a falling stump, your hair sticks out into the lump. I asked you why do all the stories bend? I grabbed your showed me how to hold a stone. And when you threw me in the air, all I could see seemed to be fair. I asked you
side.
clôturons ce magazine avec la carte blanche de la semaine donnée à Radio Béton, Radio Ferrarock Tourangelle, qui est à quelques semaines du coup d'envoi de la deuxième édition du festival Au Quart de Tour, version hiver. Enzo, programmateur du festival, ainsi que Cécilia et Charles de Radio Béton, vous présentent cet événement et sa programmation qui rend à la fois hommage à l'histoire de la radio et prouve encore son goût pour la nouveauté.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécilia de Radio Béton et aujourd'hui on est avec Enzo et Charles de Béton Productions qui organisent le festival Au Quart de Tour et sa version hivernale Au Quart d'Hiver. Ça débute dans moins d'un mois et Enzo, tu es le programmateur du festival, Charles, tu es chargé de communication. Peut-être qu'on peut commencer par donner des infos essentielles pour celles et ceux qui ont échappé à la com magique de Charles. En tout cas, ça se passe quand, ça se passe où, qu'est-ce que c'est?
Alors, ça se passe quand? En fait, c'est plus compliqué que ça se passe quand. En fait, le festival Au Quart d'Hiver, cette année, il a lieu dans le cadre des 40 ans de notre bien-aimé Radio Béton. Et en fait, ça en sera clairement le climax, mais l'anniversaire de Radio Béton aura lieu, lui, du 6 au 21 février. Et sur cette période-là, il y aura le week-end du 13 et 14 février, dans lequel aura lieu la seconde édition du festival Au Quart d'Hiver. Ce sera à Saint-Pierre-des-Corps, donc juste à côté de Tours, accessible hyper facilement en train. N'hésitez pas à prendre vos billets dès maintenant. Dans un endroit qui s'appelle Le Point Haut, qui est un endroit très charmant, immense.
C'est une sorte de lieu de création monumentale pour une compagnie d'art de rue bien connue de l'agglomération Tourangelle qui s'appelle la Compagnie Off. Et c'est vulgairement un énorme hangar dans lequel ils peuvent construire leurs machines gigantesques qui seront ensuite en déambulation un petit peu partout dans le monde. Et nous, on investit ce lieu-là qui n'est pas à l'origine prévu pour faire de la diffusion de concerts. Et donc, on l'aménage, on monte tout de A à Z, on monte les scènes, on monte tout ça, on des barrières. Voilà. On vide même un deuxième espace qui est normalement un espace de stockage ras la gueule de bordel de la Compagnie Off pour en faire une deuxième scène, une micro scène qu'on aime beaucoup qui s'appelle l'Igloo, qui peut contenir à peu près 200-250 personnes bien tassées. La halle, elle est vachement grande, on met jusqu'à 1800 personnes et ces deux espaces voilà, qu'on a plaisir à utiliser comme terrain de jeu l'hiver depuis l'année dernière et donc on retrouvera les 13 et 14 février prochains.
Et alors, Au Quart de Tour, on connaît bien, ça fait 38 éditions que ça existe, mais Au Quart d'Hiver, c'est tout nouveau, c'est seulement la deuxième édition. Comment est née cette idée de décliner le festival en version hivernale? Pourquoi? Alors qu'on crève tous de froid, justement.
ça va permettre de se réchauffer déjà l'hiver. Et puis, c'est toujours un temps qui est un petit peu morose à Tours. Alors, il y a quand même des choses à faire, hein, il se passe toujours des choses à Tours, mais il n'y a pas de gros temps fort, de gros raout où on peut tous se rassembler. Et c'est vraiment concentré sur l'été à Tours. Et comme voilà, Au Quart c'est déjà bien installé, hein, c'est début juin depuis voilà le nombre d'années maintenant, tu disais la 38e édition. On a eu envie aussi d'expérimenter la recette Au Quart. Donc la recette Au Quart, c'est énormément de découvertes, des prix accessibles et une façon de décorer le lieu très DIY avec toujours beaucoup d'humour, beaucoup d'irrévérence. Ben, on a eu envie de décliner ce qui marche très bien sur la Gloriette. Voilà, maintenant le public est au rendez-vous tous les ans, on est souvent complet toute la semaine. On a eu envie d'expérimenter ça en intérieur, sur des horaires un petit peu plus nocturnes, on finit un peu plus tard, et avec une programmation aussi plus dense, puisque ça dure que 2 jours l'hiver, alors que l'été ça dure 5 jours. Du coup, on met plus de groupes aussi pendant 2 jours, et voir un peu comment ça réagit. Et on a été l'année dernière hyper heureux de retrouver la même énergie mais avec des combinaisons de ski dans le public, donc c'était vraiment la fête, les gens étaient hyper contents de se retrouver. On a eu beaucoup de ce genre de retour hein, du public qui disait ah ben vraiment ça fait trop du bien d'avoir ce temps là et de pas être obligé d'attendre juin pour avoir des grands temps de rassemblement.
Et ça s'adresse à qui justement? Combien de personnes sont attendues cette année? Par exemple l'année dernière
300 000.
Combien avait
2 millions
non, bah, du présent, présente.
On a fait quasiment complet, la jauge est à 1800 places. Je crois que l'année dernière, à une centaine de personnes, on était complet chaque soir. On espère pareil, voire complet cette année, puisqu'en plus, c'est l'anniversaire de Béton, comme on le disait en introduction. Donc voilà, 1800 curieux. Hein, c'est un peu le même public que ceux qui viennent l'été. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent pas forcément pour des têtes d'affiche, parce que à Au Quart, on n'a pas trop les moyens, ni forcément l'envie d'en proposer, ou en tout cas, d'en proposer très peu. Donc c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont curieux de la musique, qui nous font confiance aussi, qui écoutent Béton toute l'année et qui découvrent la programmation à travers voilà, les animateurs qui vont diffuser leurs coups de cœur. Et nous, notre rôle à Béton Productions, c'est d'aller chercher ces coups de cœur radio pour les mettre sur la scène et ben, les auditeurs de Béton viennent voir ce qu'ils ont entendu toute l'année sur la radio, viennent les voir en live.
Et alors, c'est historiquement, c'est aussi une vitrine de l'ADN musical de Radio Béton, donc ce festival, mais c'est aussi une vitrine de ce que c'est, ses valeurs, etc. Est-ce qu'il y a des valeurs particulièrement portées par le festival au quart de tour et au quart d'hiver aujourd'hui ?
Bah, alors, une chose est quand même incroyable quand tu arrives ici, c'est à quel point les gens avec qui je travaille ici ont une conception de l'économie qui est radicalement différente du reste de l'industrie musicale. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, l'objectif principal, c'est de vraiment permettre de créer un festival accessible dans un moment où plus grand chose, surtout plus grand chose de culturel ne l'est, et avec aussi des conditions cool, que ce soit les prix d'accès qui sont vraiment au minimum humainement possible, et sur les conditions au bar, à la bouffe, etc. Et ça, c'est des valeurs qui sont perdues, à part dans quelques festivals. On retrouve ça peut-être dans des trucs très locaux ou alors à plus grosse échelle sur la fête de l'UMA, sur des choses comme ça. Mais je trouve ça vraiment de plus en plus rare, et j'ai rarement bossé avec des gens qui avaient autant cette considération-là en tête.
Alors, il y a un côté d'accessibilité, c'est vrai, et tu demandais quel était le lien entre les valeurs de la radio et les valeurs du festival. Moi, je pense aussi qu'il y a une vraie défense de la scène locale qu'on aime vraiment. Voilà, c'est pas juste pour dire on fait jouer des groupes locaux parce que c'est moins cher. D'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Et surtout, on aime vraiment notre scène locale. Donc, il y a toujours des groupes locaux qui sont programmés sur le festival, que ça soit l'été ou l'hiver. Et également une envie de surprendre. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas là à aligner les têtes d'affiches sans queue ni tête, juste pour vendre de la billetterie. On essaye quand même que la soirée, elle soit cohérente en termes de progression, d'énergie, qu'il y ait des choses que les gens ne connaissent pas du tout et qui vont être suffisamment, entre guillemets, incroyables sur scène pour que ça happe les gens et qu'ils soient, voilà, qu'ils soient surpris et qu'ils découvrent énormément de choses, et si possible en plus, qu'ils se confrontent à des styles musicaux qu'ils ne vont pas aller écouter d'eux-mêmes. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait sur la radio et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire sur le festival. Cantine ondine, à cantine fille, annoncez la cantine dine, les minots qui n'ont pas un rond, à cantine ondine, à cantine fille, annoncez jamais la famine, le vin des caramines, go!
Sur cette année, pour entrer juste lointainement dans la prog, il y a deux têtes d'affiche sur cette affiche. La première, c'est la Rouda, qui est un groupe historique de l'histoire de Béton, qui fait complètement sens. Et la seconde, c'est Kilowen. Kilowen, qui a un pari immense, c'est son premier festival en France. Et en fait, Kilowen, comment on est tombé dessus ? On est tombé dessus grâce à Sonia, qui est une des animatrices de Béton, qui a commencé à le jouer. Moi, qui ai rentré l'album ensuite en disque de la semaine. Toute l'équipe qui s'est mise à le jouer de ouf. Et on se disait, on cherche un bon contrepoint à la Rouda pour le deuxième soir. On s'est dit, on va prendre quelque chose de frais, de nouveau, on va s'engager dans quelque chose, et c'est exactement ce qu'on a fait avec cet anglais qui s'appelle Kilowen, et on est vraiment très sincèrement surexcité de pouvoir proposer des choses comme ça sur cette deuxième édition du Béton. Pick your poison. I had one too many. I'm drunk in love. Can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now. Guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat. It's Pete, so it's only right that I join them.
Peut-être qu'on peut rentrer ensuite plus en détail sur la programmation, mais est-ce qu'on peut dire du coup que la diversité musicale, c'est une marque de fabrique d'Ocar en général et d'Ocar d'hiver? Il y en a pour tous les goûts, il n'y a pas que du rock, même si le rock reste un incontournable. Il y a des grands, des plus petits artistes, des artistes locaux, des artistes internationaux. Est-ce que c'est vraiment la priorité, en tout cas en créant cette programmation musicale-là ?
On essaye au maximum de diversifier ce qu'on peut proposer, tout en restant cohérent avec ce qui passe sur Radio Béton. Je pense qu'on ne peut pas dire, en étant fondamentalement honnête, qu'on représente tous les goûts, c'est impossible. Il y a plein de genres musicaux qui ne sont pas très peu ou jamais été représentés sur nos événements, et même sur la radio. Mais en tout cas, on essaye au maximum d'ouvrir toutes les musiques alternatives possibles dans son prisme, qui est de plus en plus large, hein. Avant, c'était peut-être plus réduit il y a 30 ans, mais aujourd'hui, le prisme musical est vraiment hyper large. Donc, on fait notre maximum, en tout cas. Et c'est, je pense, ça reste à l'image de ce qu'on peut écouter sur les ondes de Béton.
Alors, qui y a dans cette programmation, justement? Quels artistes ont répondu présents pour cette année?
Cette année, comme on le disait, c'est les 40 ans de béton, donc forcément la programmation, elle a été un petit peu influencée par cette thématique, voilà, qui est quand même assez importante. Et il y avait, en tout cas, moi j'ai eu envie d'avoir des, à la fois des clins d'œil à l'histoire de la radio et à l'histoire du festival au quart, et en même temps continuer à avoir cette étiquette de défrichage. Et donc c'était un petite sorte d'équilibrisme où on est allé chercher, voilà, Charles parlait de la Rouda tout à l'heure, des artistes qui sont désormais très bien installés dans le paysage français, qui ont un gros historique avec Radio Béton, hein. On peut carrément dire que le chanteur de la Rouda a fait partie, avec l'ancien président de la radio, d'une émission qui parlait de ska, il y a de ça 20-30 ans, donc il a côtoyé les bureaux de voilà, les studios de Radio Béton. Désormais, il est frontman de la Rouda, et on est donc hyper content de les avoir en tête d'affiche du vendredi. On a aussi essayé de retrouver des artistes plus confidentiels mais qui ont eu beaucoup d'impact, qui ont été parfois salariés à la radio, qui ont fait de la musique, qui ont parlé pas mal au Tourangeau et un peu plus loin. Je pense notamment à Boogers, qui est un artiste qui a arrêté de faire de la musique il y a 10 ans, mais quand on lui a écrit en disant ouais, c'est les 40 ans de béton, est-ce que tu referais pas un concert, il a dit oui tout de suite, parce qu'il est comme beaucoup de gens très très attaché à cette radio et à ce festival. Donc on est très content aussi de proposer Boogers, lui ça sera le samedi soir. Et il faut savoir aussi, on l'oublie parfois, que Ocar et Radio Béton, c'est principalement de la musique, mais à une époque, c'était aussi beaucoup d'art de rue. Le festival Ocar de Tours avait aussi un penchant art de rue qui s'appelait Au nom de la Loire, qui a duré, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'années, fin 90, début 2000. Et puis après, ça s'est arrêté pour plein de raisons, notamment politiques. Mais à l'époque, les équipes de béton étaient aussi très sensibles à tout ce qui est art de rue. Ça existe toujours sur le festival, dans des formes plus ou moins développées. Et sur cet anniversaire, on a eu aussi à cœur de proposer ça, avec notamment deux interventions de Jean-Louis Demille, artiste d'art de rue cultissime dans l'imaginaire de d'Ocar, puisque je ne sais plus en quelle année c'était, est-ce que 99 sur Ocar de Tours, il avait débarqué en hélicoptère parce que son personnage, c'est un personnage hyper grandiloquent du Star System qui se la pète à mort, qui a des agents de sécurité autour de lui et tout pour assurer sa sécurité. Il est hyper kitsch et il avait poussé le délire tellement loin qu'il avait débarqué en hélicoptère en plein milieu du festival en 97 pour une de ses performances. Bref, ça a marqué les esprits de fou. On nous en parle tout le temps. Moi, je ne l'ai pas vécu. Mais du coup, il revient. Alors, pas en hélicoptère.
Oui, j'allais demander justement. Il débarque en quoi?
On est en 2026. On fait attention à la planète. Il vient en caravane. Voilà, ça sera.
C'est stylé aussi.
Ouais, c'est stylé aussi. Donc, il y aura Jean-Louis 2000 et on est aussi très content d'avoir, pareil, un spectacle qui n'existait plus et qui est reformé pour l'occasion. Ça s'appelle Freddy Coup de Boule. Et Freddy Coup de Boule, c'est deux personnages. C'est un personnage interprété par un comédien local qui a pas mal de d'aura aussi maintenant, qui s'appelle Rodolphe Coutuy. Et il est accompagné par un ancien tourangeau que désormais beaucoup de gens connaissent, notamment dans le milieu de la radio. Il s'agit de Thomas VDB. Donc il y a Rodolphe Coutuy et Thomas VDB qui n'ont pas joué ce spectacle depuis 15 ou 20 ans et qui vont le refaire aussi. Ça s'appelle Freddy Coup de Boule et ça sera le samedi soir.
Alors Freddy Coup de Boule, recordman
professionnel.
Recordman professionnel. Freddy, tu es venu ici aujourd'hui pour pulvériser pas moins de 8 records mondiaux, c'est bien ça?
Je vais te péter!
Calme-toi un petit peu, s'il te plaît. 8 records, mon petit champion, pour lesquels aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit?
Pas encore!
Qu'est-ce qu'il a dit, Freddy?
Pas encore!
Donc voilà, il y a de la musique, mais il y a plein d'autres choses. On a aussi une création spéciale qui s'appelle le concerto en doigt majeur, et ça, c'est un truc de fou. Qui est Cédric Gouin, l'ancien président de Béton, qui s'est chauffé à monter un orchestre issu du répertoire classique, mais il leur a proposé un répertoire qui marque 40 ans, pardon, de radio. Donc ça part du début des années 80 jusqu'à 2025, et il a sélectionné quelques morceaux comme ça emblématiques de l'histoire de la radio qui vont être réinterprétés, qui vont être réarrangés avec cet orchestre classique. C'est pas un concert de musique classique, c'est un concert de musique rock, mais avec des gens qui n'en écoutent pas et qui ont un autre rapport à la musique que celui qu'on a l'habitude d'avoir ici à Béton. Et ça risque d'être assez fou, ça aussi c'est le samedi en ouverture de la grande scène.
Attends,
arrête,
c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Bah évidemment, tu joues pas en rythme. Attends, j'ai des copains pour un petit orchestre, on va aller les voir.
D'accord.
Béton et l'ensemble Optix présentent le concerto en doigt majeur.
Après, si comme ça on fait un listing rapide pour nos auditeurs et auditrices. Donc sur le vendredi 13 février, nous avons Larouda, Dieter, Mars Red Sky, Meule, Engine de Poitrine, Junebug, Lynx IRL, Nord Noir et les Fast et Furieuses. Et sur le samedi 14 février, nous avons donc Kilowen, Underground, Madness, MDNS, The Big ID, Jasmine Nojafar, le concerto en doigt majeur évidemment, Short Straw, Tarant Lanera et donc évidemment Boogers, Freddy Coutboul et Jean-Louis 2000.
En tout cas, ça fait beaucoup beaucoup de choses, mais puisqu'on arrive à la fin de notre temps ensemble, moi je vais vous poser une dernière question. Ça permet plus de résumer justement ce que vous avez en tête avec ce projet. Est-ce que vous auriez trois mots pour résumer cette deuxième édition et qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne en fait finalement en sortant du festival ?
Avec trois mots, c'est tout à fond.
Très bien. Moi j'aurais tough, amour et découverte.
Oh. Amour.
Ouais, parce que je trouve que le public d'Ocar est hyper bienveillant, hyper que ça soit entre eux ou bien aussi envers les artistes, il y a toujours un accueil, je trouve, et les artistes souvent nous font le retour que ils sont bluffés de l'ambiance et de l'accueil qu'il y a du public d'Ocar et de Radio Béton. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont particulièrement curieux et ouverts ou juste très contents d'être là et bienveillants. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien et c'est du donnant-donnant parce que quand les artistes, ils sentent ça en face, ils donnent aussi le maximum. Et il y a beaucoup de fois où des gens m'ont dit « Putain, ce concert-là, au quart, il était fou. » Et j'ai revu le groupe plus tard, c'était pas si fou. Voilà, donc il y a vraiment une alchimie qui est donnant-donnant, quoi. Un lien entre ce qui se passe sur scène, ce qui se passe dans la fosse. Et tant que ça existe, au quart, ça restera un festival un peu particulier.
En tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, il reste encore des places. Et en tout cas, merci à Charles et merci à Enzo.
Merci, Cécile.
Pour ce petit résumé du Docker d'hiver.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Un joyeux programme attend les Tourangeaux et Tourangelles pour les 40 ans de Radio Béton qui sera marqué au milieu de 3 semaines de festivités par le festival Au Quart de Tour les 13 et 14 février. Toutes les infos sont à retrouver sur www.aucart-tour.com. Diffusé tout au long de cette semaine sur votre radio Ferrarock et présenté dans ce magazine par Morgane de Radio Primitive et Lola de Canal B, les albums Fragments par In Fallow, sorti en autoproduction le 19 décembre, ainsi que The Lighthouse de Tessa Rose Jackson, disponible depuis le 23 janvier via Teeny Tiger Records. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.